Merci et donc bonsoir à tous et merci d'être là pour cette conférence. Donc là l'idée c'est donc comme l'a dit Fred d'expliquer un peu ce que c'est que candidat.fr, pourquoi on fait ça et après aussi qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains mois et comment agir et comment participer. Donc candidat.fr, tu peux y aller. Donc c'est une initiative qui a été mise en place par l'April. Qui date de 2007, qui date en fait de la campagne pour les présidentielles. Donc en fait, à l'origine, l'idée, c'était de voir que quand on travaille sur les questions de logiciels libres, comme on le fait à l'April, sur tout ce qui est politique et juridique autour du logiciel libre, autour du libre en général, finalement, si on veut vraiment pouvoir travailler en amont, c'est intéressant de pouvoir travailler avec les candidats avant même qu'ils soient élus. Et finalement, de savoir quelles sont les positions des uns et des autres avant que leur politique soit mise en place. Donc finalement, les objectifs qui étaient à l'origine de candidat.fr, donc c'était d'abord de connaître les positions des candidats, surtout les enjeux qui touchent au numérique et au logiciel libre. C'était de sensibiliser les candidats, donc en les invitant simplement à prendre position, en leur posant un certain nombre de questions sur les politiques qu'ils envisagent de mettre en place, sur la manière dont ils souhaitent ou ils envisagent de promouvoir le logiciel libre, ou pas d'ailleurs. Et enfin, donc, de faciliter le contact entre citoyens et candidats, parce que la grande partie de candidat.fr, ça repose vraiment sur la manière dont on va avoir les citoyens, finalement tout le monde, vous et moi, qui allons voir directement nos candidats, notamment des élections locales, pour les sensibiliser et leur parler de logiciels libres. Donc voilà, donc comme je disais au début, la première campagne, elle date de 2007, c'était pour les élections présidentielles. Donc le mode d'organisation à ce moment-là, on a en fait fait un questionnaire donc, qui était assez précis, qui recoupait, il me semble, 7 ou 8 grands thèmes. Donc ça allait des brevets logiciels aux droits des consommateurs, en passant par les différents textes internationaux. Et donc l'objectif, c'était d'avoir vraiment les positions précise de chacun des candidats sur chacun de ces enjeux. Donc ça a été un succès, parce que dès 2007, on a eu 8 candidats sur les 12 de l'élection présidentielle qui avaient répondu au questionnaire, dont les principaux. Donc voilà, pour mémoire, les candidats qui avaient répondu, il y avait François Bayrou, Olivier Besancenot, José Bové, Marie-Georges Buffet, Jean-Marie Le Pen, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et Dominique Voynet. Et donc ce qu'on a fait, et donc qu'on devrait refaire pour la prochaine fois, enfin donc pour cette année, c'est on publie toutes ces positions ensuite sur le site sans spécialement faire de commentaires. C'est-à-dire que l'objectif, c'est plus de laisser les candidats s'exprimer et après chacun peut se faire une opinion. On ne va pas non plus dire c'est bien, c'est pas bien. On a posé des questions précises et après chacun peut se faire peut évaluer soi-même les différentes réponses qui ont été faites. Donc Candidat.fr, après cette élection-là, on s'est dit que c'était intéressant de continuer et d'évoluer. Et ça a pris une forme assez différente pour les deux autres types d'élections qu'il y a eu. Donc que ce soit pour les législatives, pour les régionales, pour les cantonales ou pour les municipales, on a aussi agi. Mais sous une forme, la forme du pacte du ce qu'on appelait le pacte du logiciel libre. C'est-à-dire c'est un pacte assez simple qu'on demande aux candidats de signer, comme quoi ils ont compris les enjeux du logiciel libre et qu'ils s'engagent à le promouvoir s'ils sont élus. Donc c'est une action qui occupe beaucoup plus de monde, qui forcément est beaucoup plus vaste, parce qu'il s'agit d'aller voir tous les candidats, alors qu'on a une élection, rien que pour une élection pour les députés, sachant qu'il y a plus de 500 députés, on peut imaginer le nombre de candidats, mais encore plus quand il s'agit des cantonales, où il y a plusieurs milliers de cantons. Et vraiment l'objectif c'est d'avoir une démarche citoyenne de chaque citoyen qui va informer, et qui va finalement montrer à son élu qu'il se préoccupe de ces différents enjeux en lui demandant de signer ce document qui est le pacte du logiciel libre. Donc, voilà, donc le résultat de ces campagnes depuis 2007, donc on a participé à quand même 2, 4, 6, 7 élections. Donc en 2007, pour les législatives, on avait 230 volontaires qui se sont inscrits sur notre plateforme. Au final, il y a eu 527 candidats qui ont signé le pacte du logiciel libre, dont 76 qui ont été élus. Au municipal, en 2008, on a eu 204 volontaires, 132 signataires, 23 élus. On a aussi fait les cantonales donc en 2008 en 2011, avec 7 élus donc en 2008, 19 élus en 2011. Les européennes aussi. On a travaillé pour faire un pacte plus global et en travaillant en collaboration avec d'autres pays. Et on a aussi participé, on a aussi lancé l'initiative pour les législatives en Belgique en 2010. On a eu 193 signataires. Voilà, donc après, le dernier aspect de candidat.fr qui est aussi important parce que ça montre l'impact et l'intérêt que les citoyens ont pour ces questions et donc le fait que les élus s'en préoccupent, ça touche quand même beaucoup de monde, c'est la déclaration d'utilisation. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tout le monde peut signer et en fait, c'est... L'idée, c'est que tous les utilisateurs de logiciels libres demandent à ce que leurs droits soient pris en compte par le législateur et ils demandent à leurs élus d'utiliser du logiciel libre. Donc depuis qu'on a lancé la plateforme en 2007, on a plus de 17 000 personnes qui ont signé. Donc ça commence à être assez important. Ça commence aussi à montrer finalement aux gens, aux élus et aux candidats que c'est pas juste un petit groupe derrière, mais c'est quand même une population assez importante. Et donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller la signer sur le site. Donc voilà, et pardon, j'avais oublié le dernier aspect, parce que c'est quelque chose qui est tout nouveau, qu'on vient de lancer il y a quelques semaines, un peu plus, quelques mois, un ou deux mois maintenant. C'est ce qu'on appelle initiative.candidat.fr. Donc ça part vraiment du principe, ça part vraiment d'une question qu'on nous a beaucoup posée. C'est d'accord, vous faites signer ce pacte, vous demandez aux élus de s'engager, mais qu'est-ce qu'on voit par la suite? Est-ce qu'il y a un résultat? Est-ce qu'il y a des réussites? Est-ce que ça bouge finalement? Et donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui permette de recueillir toutes les initiatives qui ont lieu au niveau local, alors que ce soit dans ma commune, que ce soit dans mon département, dans ma région, en faveur du logiciel libre, que ce soit l'utilisation de logiciels libres, que ce soit des formations, de l'information. Donc, quelle que soit la taille, ça peut être simplement ma commune de 3000 habitants qui a décidé que dans l'école maternelle, ils n'utiliseraient plus que du logiciel libre. Ça peut être quelque chose, par contre, de beaucoup plus important, comme des migrations, comme au niveau d'une région, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de savoir vraiment tout ce qui se passe, tout ce qui est initiative en faveur du libre qui peut se passer en France, pour pouvoir vraiment avoir une cartographie de plus en plus concrète de ce qui a lieu. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est une très bonne réponse. Quand on nous dit non, mais le logiciel libre, personne ne l'utilise, on ne sait pas comment ça marche, et ça ne marche pas pour les collectivités, c'est finalement la preuve par l'inverse que si, il y en a beaucoup qui l'utilisent et que ça fonctionne. Parce qu'il y a des initiatives qui sont mises en place, on n'entend pas forcément parler, parce que ça peut être des petites choses, mais quand même, la situation évolue et il y a des choses intéressantes qui se passent. Donc voilà, le site internet, c'est initiative.candidat.fr. Donc pareil, si vous en avez connaissance, n'hésitez surtout pas à renseigner. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Marie. Ah, bon, on verra après, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais donc pour présenter un peu donc, ce qui va se passer maintenant, les prochains mois, donc la présidentielle et les législatives en 2012.
Merci. Alors là, je vais vous parler concrètement de ce qu'on a préparé pour les élections présidentielles, mais également pour les législatives. Donc pour les présidentielles, on a préparé donc un questionnaire, comme en 2007. Et finalement, ça a été une mise à jour du cahier de 2007. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que beaucoup de questions qu'on avait posées en 2007 n'étaient toujours pas résolues. Donc on a repris les cahiers de 2007, on a fait une mise à jour et on a rajouté des nouveaux sujets aussi. Pour ça, on a fait appel à nos bénévoles, c'est-à-dire que l'April aujourd'hui, c'est plus de 5400 adhérents, et il y en a donc plusieurs centaines qui sont actifs, et on a fait appel à leurs compétences pour mettre à jour les cahiers. Donc leurs compétences, ça peut être des connaissances en matière d'économie, les chefs d'entreprise sur le cahier entreprise, par exemple, mais ça peut être aussi des gens sur le cahier, enfin sur la correction de la forme, des correcteurs, des traducteurs aussi, enfin, on a mobilisé tout le monde. Sur la structure des cahiers, donc on a fait une partie résumée pour que les équipes de campagne aient une idée globale du sujet des cahiers. Et après, on a mis une série de questions. On essaye de résumer au maximum, de pas faire un bloc massif de questions et de pas faire des questions fermées, où ils puissent vraiment s'exprimer et exprimer les opinions de leur parti. Au total, on a fait un premier bilan des cahiers. Aujourd'hui, on est à 5 pages de questions à peu près, donc c'est quand même assez conséquent pour les équipes de campagne quand ils vont devoir se mobiliser pour rédiger les réponses. Et on a une centaine de pages de développement, puisque derrière les questions, en fait, on explique les parties qui intéressent le logiciel libre relatif aux questions. Et donc ça fait plus d'une centaine de pages à ce jour, et on n'a pas encore fini, et on espère finir bientôt, dans les semaines à venir. S'agissant concrètement des cahiers, donc il y en avait 7 en 2007, il y en a 10 aujourd'hui. Les 7 de 2007 restent les mêmes, c'est brevetabilité, interopérabilité, internationale, DRM, consommation, éducation et e-administration. Et les 3 petits nouveaux, donc c'est accessibilité, économie, entreprise, innovation et recherche. Alors sur les nouveaux, sur accessibilité et recherche, en fait, accessibilité, ce sont deux groupes de travail qui ont émergé à l'April, et on a trouvé que c'était des sujets importants aujourd'hui. L'accessibilité, concrètement, c'est quoi ? C'est rendre accessibles les sites Internet, toutes les plateformes numériques à tous, que ce soit des personnes valides ou non valides. Et donc, il y a des problématiques concrètes qu'on doit poser aux candidats aujourd'hui sur la question de l'accessibilité. La recherche, c'est pareil. Aujourd'hui, savoir est-ce que un chercheur peut diffuser une publication sous licence libre ? Oui, non. C'est des questions concrètes aujourd'hui qu'on aimerait bien avoir des positions. Il y a des obstacles à ce genre de publication. Et donc, le groupe de travail recherche est en train d'élaborer un cahier qui sera mis à disposition des candidats bientôt. S'agissant d'économie, entreprise et innovation, donc c'est un nouveau cahier aussi. Ça nous paraissait important de montrer que le logiciel libre, c'est pas que un truc de geek, entre guillemets, puisque c'est ça que tout le monde voit aujourd'hui. Concrètement, ça s'applique dans les entreprises. Il y a une étude qui a été faite. On estime à près de 90% des entreprises innovantes qui utilisent au moins un logiciel libre. Et il y en a 63% aujourd'hui qui utilisent en majorité des logiciels libres. Donc c'est pas quelque chose de négligeable, c'est pas un effet de mode, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui devient la référence en matière de logiciels dans les entreprises. Et on estime donc que d'ici 2013, 30%, il y aura une croissance de 30% dans le marché du logiciel libre. Donc c'est vraiment important, et pour les entreprises, pour qu'elles soient sensibilisées et pour qu'il y ait une politique favorable aux entreprises, on a posé des questions spécifiques pour les entreprises dans les cahiers. Donc pour ceux qui sont encore présents cette année, il y a notamment le cahier brevetabilité, donc sur les brevets logiciels qui sont hélas toujours d'actualité. Il y a eu une grosse actu donc cette année sur le brevet logiciel, qui est le projet de brevet unitaire au niveau européen. Le brevet unitaire, c'est quoi concrètement ? C'est un brevet européen, entre guillemets, qui s'appliquerait à tous les États signataires. Donc il n'y aurait plus besoin de déposer chaque brevet, de faire une procédure dans chaque État pour chaque violation. Et ce brevet unitaire, aujourd'hui, avec le projet actuel, il serait sous contrôle de ce qu'on appelle l'Office européen des brevets. Et l'Office européen des brevets, qui est l'instance qui délivre actuellement un système de brevets européens, mais à minima, est favorable aux brevets logiciels. Donc clairement, de façon indirecte, c'est une menace pour les logiciels libres, puisqu'il y aurait des brevets qui seraient accordés sur des logiciels, et il n'y aurait plus aucun contrôle d'une cour impartiale et indépendante sur les brevets octroyés par l'OEB. Donc l'April se mobilise énormément sur ce sujet. Il y a eu un site internet spécifique qui a été fait, il y a un conseiller bénévole qui travaille presque à temps plein actuellement sur ce sujet pour rencontrer les parlementaires, pour discuter avec eux, pour faire des propositions d'amendements, des propositions de modification d'amendements, pour véritablement que ce brevet unitaire soit modifié à l'heure actuelle et que la menace des brevets logiciels soit définitivement écartée. S'agissant du cahier international, là tout le monde en a entendu parler, il y a eu le sujet ACTA, SOPA, PIPA. Donc ACTA, c'est le projet anti-contrefaçon, d'accord international anti-contrefaçon, où il y aurait un certain contrôle, une certaine censure d'Internet qui serait imposée. Donc pareil, l'April se mobilise, des associations telles que la Quadrature du Net aussi se mobilisent énormément. Et donc SOPA et PIPA, c'était deux projets au niveau aux États-Unis qui étaient pour une censure, clairement c'était une censure des sites internet qui étaient imposés sans contrôle des juridictions, et même on pouvait censurer les sites internet étrangers et les bloquer. Il y a eu donc l'affaire Mega Upload qui a occupé le devant de la scène ces derniers temps, qui est révélateur de ce genre de problématique actuellement. Est-ce qu'on doit privilégier le droit d'auteur de cette façon-là ? C'est vraiment un sujet important actuellement. Et donc, il y a eu une mobilisation de beaucoup d'acteurs du numérique sur SOPA et PIPA. Vous avez sûrement entendu parler, par exemple, Wikipédia, qui a fermé son site internet en anglais pendant 24 heures le 18 janvier dernier pour boycotter, donc, enfin, lutter contre SOPA. Il y a eu Google aussi, il y a eu Facebook, il y a eu plusieurs sites français qui se sont vraiment mobilisés. Et si on a une mobilisation générale comme ça, c'est vraiment qu'il y a un problème. Et on a appris que l'administration Obama donc, avait reculé sur SOPA et PIPA et qu'il faisait une réflexion sur ce sujet-là. Donc là, c'est vraiment la grosse actualité au niveau du cahier international. Et il y a encore, hélas, des questions sur international qui sont en cours, qui restent depuis 2007. Par exemple, la réforme de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui est un office important pour le logiciel libre, pour la propriété intellectuelle en général. Vraiment, là, c'est des questions qui restent encore d'actualité. S'agissant du cahier consommation, là aussi, grosse actualité, puisque au mois d'octobre 2011, on a eu le projet de loi consommation qui a été discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat après, où il y a eu 3 amendements sur le sujet de la vente liée qui avait été déposé. Alors la vente liée, c'est quoi ? C'est le fait de lier un matériel, un ordinateur, systématiquement avec des logiciels et de ne pas pouvoir les vendre séparément. C'est le cas de 95% des offres grand public aujourd'hui pour les ordinateurs. Et donc il y a eu des propositions d'amendements qui avaient été déposées pour imposer l'interdiction de la vente liée et pour aussi discuter de ce qu'on appelle l'optionnalité. L'optionnalité, c'est quoi ? C'est de proposer, en fait, d'imposer aux distributeurs et aux fabricants de proposer au grand public un matériel avec des logiciels liés ou sans. C'est-à-dire que le public doit avoir le choix d'acquérir le matériel ou pas. Et ils ont les moyens de faire ça aujourd'hui. Et donc, il y a un grand débat sur la vente liée à l'Assemblée nationale qui a vraiment remis ça sur le devant de la scène. Alors, ces amendements ont été ou retirés ou rejetés. Retirés pourquoi ? Parce qu'il y a eu un arrêt de la Cour de cassation, le 6 octobre 2011, en fait, qui venait, donc, c'était sur une affaire donc, de vente liée qui avait été lancée par l'UFC Que Choisir. Et les parlementaires ont décidé d'attendre, donc de retirer les amendements pour voir ce qui allait se passer au niveau de la jurisprudence de la Cour de cassation. Hélas, donc, la Cour de cassation s'est prononcée a minima, c'est-à-dire qu'elle a obligé les distributeurs à informer le grand public sur le coût des logiciels, parce qu'actuellement, en fait, les gens croient que les logiciels qu'ils acquièrent avec leur matériel est gratuit, puisqu'ils ne voient pas le prix, ils ne voient pas l'acquisition du logiciel, en quelque sorte. Pour eux, c'est un prix global. Et donc, la Cour de cassation a dit non, il faut faire un affichage distinct des prix. Et là aussi, donc, grand sujet, et pour les candidats, on veut avoir des réponses sur le sujet de la vente liée, sur l'avenir. Est-ce qu'on va attendre que la jurisprudence se prononce uniquement sur le... Donc là, il n'y a que sur l'obligation d'information qu'elle s'était exprimée. Est-ce qu'on va attendre que la Cour de cassation s'exprime véritablement sur la vente liée, ou est-ce qu'on va légiférer avant ? C'est la question qu'on pose aux candidats. Sur éducation aussi, donc il y a de l'actualité. Et c'est pour les collèges et lycées, il y a le B2I, donc le brevet, un brevet informatique en fait qui est proposé, qui pose quelques problématiques. Et à partir de la rentrée 2012, donc là aussi, on pose des questions aux équipes de campagne sur ce projet. Il y aurait une matière en fait informatique qui serait en option pour les terminales S. Et donc à savoir si le programme va rester tel quel, est-ce qu'ils vont le faire évoluer, est-ce qu'il va y avoir sur les problématiques de droit d'auteur, ça va être accentué, enfin ce genre de questions. S'agissant du B2I par exemple, il y a une obligation pour les professeurs de sensibiliser les élèves au danger du téléchargement des atteintes aux droits d'auteur. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'on peut aussi sensibiliser les élèves à une option de partage, une vision de partage du droit d'auteur et de parler des licences libres dans cette matière, dans le B2I par exemple, ou dans la matière de terminale qui va être proposée. Pour e-administration, donc, il reste aussi, Il y a eu de grandes avancées cette année, enfin en 2011, sur le sujet de la e-administration, puisqu'il y a eu un arrêt du Conseil d'État sur les marchés publics de logiciels, en disant que une collectivité peut imposer un logiciel sur une offre de service, et donc peut imposer un logiciel libre, puisque ça ne porte pas atteinte aux droits de la concurrence. Et donc là, c'est un sujet d'actualité aussi pour les candidats qui vont devoir répondre sur l'e-administration. Et autre sujet dont on entend beaucoup parler pour l'e-administration, c'est par exemple l'open data, dont tout le monde parle, l'ouverture des données publiques. Comment ouvrir les données publiques? Est-ce que les candidats vont imposer des standards ouverts et interopérables pour les données publiques? C'est la question qu'on leur pose. Et donc concrètement, c'est ce qu'on voudrait savoir. Donc les échéances à venir. Les cahiers ne sont toujours pas finis, on est en cours de finalisation, ça fait plusieurs mois qu'on y est, et c'est vraiment un gros travail de mise à jour, de formulation, des questions pour les candidats. Et donc, ils seront validés lors de pour l'Assemblée générale de l'April le 11 février prochain. C'est l'échéance qu'on s'est fixée pour finaliser les cahiers. Et ils seront transmis donc juste après à l'ensemble des équipes de campagne de tous les candidats qui seront déclarés. Et donc on attend des réponses avant le premier tour qui sera le 22 avril 2012. Donc on essaye de les donner assez tôt aux équipes de campagne pour qu'ils puissent avoir le temps de répondre, puisque 5-6 pages de questions sur les logiciels libres, ça se fait pas sur un coin de table, et on espère qu'ils vont prendre le temps de répondre. Ils ont plusieurs mois pour répondre, dès qu'on leur transmettra, et on attend leur réponse avec impatience. Alors, et après les élections présidentielles, donc, suivent les élections législatives, et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les élections législatives ? Alors, là, on a besoin, pour les élections législatives, donc c'est différent de l'organisation des élections présidentielles. Pour les élections présidentielles, donc on envoie un questionnaire global à chacune des équipes, à chacun des candidats aux élections. C'est pas très difficile, ils seront une quinzaine. Par contre, pour les élections législatives, il y a peut-être quelques milliers de candidats qui vont se présenter. Ça va être plus compliqué. Donc là, on fait appel à des volontaires. Les volontaires donc s'enregistrent sur la plateforme candidat.fr pour adopter un candidat. Donc ils vont s'occuper de le contacter, de lui expliquer et de voir avec lui pour s'engager sur la signature du pacte du logiciel libre qu'on vous a expliqué tout à l'heure, ou pour prendre en charge une circonscription complète. Donc il y a des volontaires qui s'inscrivent, qui s'enregistrent sur le site et qui prennent en charge une circonscription et qui vont voir les candidats, tous les candidats des circonscriptions pour l'engagement, pour leur faire signer le pacte du libre. Et une fois qu'ils ont cet engagement, une fois qu'ils ont rencontré ces candidats, ils retournent sur le site internet de candidat.fr et ils enregistrent l'engagement du candidat. Et ils peuvent, ces volontaires, mettre à jour les fiches des candidats, accéder à ces fiches qui ont été conservées des dernières élections. C'est par exemple avec le nom, l'adresse du candidat, comment les contacter. Et il y a sur le site, il y a un petit guide pour les volontaires pour savoir comment les contacter, parce que c'est pas forcément facile de contacter un candidat aux élections législatives. On peut être un peu timide, on ne sait pas trop quoi lui dire. Et donc il y a un petit guide avec comment se présenter, comment rédiger un courrier, comment je les contacte, est-ce que je contacte l'équipe de campagne, est-ce que je contacte le candidat directement, où est-ce que je vais le rencontrer. Et voilà, il y a vraiment on aide les volontaires pour faire la démarche et pour les inciter. Et on a besoin de volontaires aujourd'hui pour mener cette campagne des législatives qui est essentielle. Il n'y a pas que les présidentielles cette année, il y a les législatives également. Et il y a l'opération Intract Impact aussi qui a été lancée, c'est-à-dire qu'on incite les volontaires ou toute personne intéressée à aller à la rencontre des candidats quand ils vont sur les marchés, quand ils vont distribuer leur tract, et en échange d'un tract, on leur demande de signer, de voir le pacte et de s'engager. Donc là, c'était l'opération Intract Impact qui était intéressante et qui a un certain succès. Et on a déjà des retours des volontaires des élections précédentes qui sont déjà dans les starting blocks, prêts à partir pour les élections législatives dès que la plateforme est mise en ligne. Donc là, il y a vraiment une mobilisation des bénévoles sur ce sujet et c'est vraiment une campagne d'envergure pour l'April. Et la grande nouveauté cette année, qui va faire plaisir aux volontaires et qui va faire plaisir aux candidats aussi, c'est qu'on a un fax maintenant. Donc on peut envoyer directement, les pactes et non plus les envoyer par courrier, par mail, tout ça, c'était vraiment de l'organisation. Et donc c'est la grande nouveauté de cette année qui va vraiment faire plaisir aux volontaires. Donc je vous incite vraiment à aller sur le site candidat.fr, voir un peu toute la plateforme, naviguer un peu, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Vous avez vu, il y a Initiative Candidat, il y a les campagnes pour les différents, il y a les anciennes campagnes qui sont en ligne aussi, si vous voulez aller voir le nombre de personnes qui se sont engagées, le nom des personnes et tout ça. Et là, vraiment, donc, ce soir, on lance la campagne et on fait appel aux volontaires qui veulent suivre l'April pour la campagne des législatives particulièrement et pour communiquer aussi sur les présidentielles.
Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas.
Vis-à-vis des engagements qui avaient été pris, est-ce qu'il y a eu beaucoup de respect ou de la part des candidats
pour les élections présidentielles, je pense.
Donc, pour les présidentielles, globalement, on n'a qu'un seul candidat sur lequel on a pu juger, c'est logique. Globalement, on peut quand même considérer que ce qui avait été annoncé a été globalement tenu. Alors, on était d'accord, pas d'accord avec ce qui a été annoncé, mais globalement, on le retrouve. Donc, au moins à ce niveau-là, effectivement, c'est plutôt un succès parce qu'on a eu effectivement des positions qui correspondent à ce qu'on a vu par la suite.
J'ai une petite question au niveau de l'organisation. Donc pour les législatives en particulier, vous demandez à des bénévoles de prendre contact avec les candidats. Je trouve que c'est une très bonne chose. La question que je me pose, c'est tout de même, est-ce qu'il y a, on pourrait dire, un contrôle ou est-ce qu'il y a un moyen de s'assurer que les gens qui sont bénévoles, et peut-être tout à fait de bonne foi, vont pas aller raconter des âneries quand même aux candidats quand ils vont leur parler. Parce qu'il y a, dans le logiciel libre, il y a un nombre de confusions très importants qu'on peut faire. Et je voulais savoir si vous aviez, ou alors si vous aviez des retours, par exemple, sur des candidats qui avaient été mal informés, malheureusement, par quelqu'un qui pensait bien faire.
Pour ce qui est d'un contrôle, non, on ne contrôle pas directement, ne serait-ce que parce que c'est infaisable et que ça ne correspond pas du tout, de toute façon, à la philosophie de candidat.fr. On n'a pas eu de retour non plus, comme quoi ils ont été mal informés, donc finalement, ça se passe plutôt bien, je pense, j'espère en tout cas. Mais après, on fournit quand même, ce que disait Marie, donc pas mal d'outils pour que les gens puissent avoir des argumentaires, des informations, pour pouvoir effectivement vraiment donner les arguments qui correspondent. Et puis après, nous, on fait en sorte d'être aussi disponible que possible pour pouvoir vraiment expliquer et quand les gens ont des doutes, pouvoir les informer eux aussi pour qu'ils puissent informer à leur tour leurs candidats.
D'accord. Donc le but, c'est vraiment d'amener ça à la conscience, d'informer déjà que ça existe et après, avec les différents outils, amener le candidat vers le pacte, par exemple.
Voilà. Et aussi, finalement, de rapprocher les bénévoles et de rapprocher les citoyens de leur candidat, parce que c'est quelque chose qu'on remarque qui est assez intéressant, c'est qu'après, il y a régulièrement des contacts qui se forment et des candidats qui vont ressolliciter des bénévoles avec qui ils avaient déjà eu l'occasion de discuter sur ces questions-là, parce que, justement, ils sont en recherche, finalement, d'expertise et d'information.
Merci. J'avais une petite question. Vous parliez d'un bilan qui était globalement bon pour le candidat, l'actuel occupant, locataire de l'Élysée. Est-ce qu'on pourra avoir des détails sur les points positifs et les points négatifs Les oublis, par exemple.
Après, on ne fait pas de bilan sur leur position, de toute façon, quand ils répondent au questionnaire. En lisant la réponse, enfin, en tout cas, la pression que j'ai, qu'on peut constater, c'est que les grandes lignes de la politique qu'on a pu voir ces dernières années ont été effectivement tenues. Mais elles étaient déjà annoncées dans les réponses au questionnaire.
Pourquoi vous ne faites pas de bilan? Parce que si vous posez des questions, il est peut-être intéressant d'avoir un retour sur les objectifs qui ne sont pas atteints, non?
Après, on considère que globalement, chacun peut lire la réponse parce qu'elle est librement disponible et que chacun est assez... c'est plus intéressant, au contraire, que chacun puisse se faire son opinion par soi-même des positions des uns et des autres.
Si ça concerne la question posée donc à l'ensemble des candidats et la réponse de Nicolas Sarkozy en 2007, le bilan il a été fait assez immédiatement parce qu'on avait communiqué à l'époque une analyse qui était titrée en fait le programme de Nicolas Sarkozy entre brevets logiciels et Internet chinois. Je pense qu'en 2012 on peut constater que l'Internet chinois est bien présent en France. Il n'y a pas besoin de faire un bilan précis là-dessus, tout le monde le sait, entre Adopi, Lopsi et autre chose. Le soutien aux brevets logiciels a toujours été maintenu. Alors, concrètement, effectivement, pour l'instant, c'est plutôt au niveau européen que ça se joue, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire, mais au niveau brevet unitaire, on n'a pas vu la France intervenir contre ce projet. Au niveau des DRM, DATSI existe toujours, et c'était annoncé dans sa réponse. Et je crois que le seul point positif, c'était la confirmation qu'il était d'accord avec nous sur le fait de mettre en place une option enseignement de l'informatique au lycée. Alors que nous, c'était une option obligatoire et non pas facultative. Mais en tout cas, ça, c'était le côté positif. Donc, on peut dire concrètement qu'effectivement, indépendamment de ce qu'on pense de la mise en place, enfin, de la politique numérique qui a été menée, elle a été annoncée, clairement. Par contre, c'est vrai qu'on ne commande pas les réponses, parce qu'on considère que les gens sont assez grands pour lire l'ensemble des réponses des candidats, à l'exception notable qu'il faut respecter la forme. C'est-à-dire, l'ensemble des autres candidats avaient répondu vraiment en respectant la forme, c'est-à-dire en répondant à quasiment totalité des questions. La réponse de Nicolas Sarkozy nous est arrivée 2 jours avant le premier tour, un mercredi soir. Moi, je m'apprêtais à partir. D'un coup, je reçois un courriel venant de l'UMP avec une réponse. Je lis la réponse, je me dis « elle est bizarre, cette réponse, parce qu'elle est quand même pas vraiment très positive. Elle arrive très tardivement, donc j'appelle quand même l'UMP. On me dit « oui, c'est la bonne réponse, mais c'est une réponse en 3 pages. » Effectivement, quelque chose qui était, de notre point de vue, pitoyable. Donc effectivement, on a communiqué. Si cette année ça se reproduit, on fera la même chose. Mais a priori, on espère qu'en 5 ans, ils ont appris. On espère que les gens dans le numérique au niveau de l'UMP qui ont compris quelque chose, notamment lors de la Rodière, Lionel Tardy, vont mettre en place dans les réponses des choses, je dirais, intelligentes. Après, ils ont le droit de ne pas être d'accord sur tout avec nous, ça c'est clair. Mais on espère qu'ils vont effectivement respecter ne serait-ce que la forme, ce qui n'était pas le cas en 2007. Donc le bilan a été fait de facto, en fait. Et je dirais que c'est une des forces de ce questionnaire, c'est que les questions étaient suffisamment précises pour avoir des réponses engageantes, et en fait pour rappeler à tous ceux qui aujourd'hui s'étonnent de la politique menée en France depuis 5 ans sur le numérique, que c'était annoncé, c'est pas une surprise. C'était annoncé dans ce questionnaire-là, c'était annoncé dans une longue interview qu'il avait fait pour le journal du Net, donc c'est pas une surprise. Les gens qui disent on ne savait pas, c'est des gens qui n'ont pas lu à la fois son interview sur le journal du Net, quelques semaines avant l'élection, et notre réponse à notre questionnaire. Donc on espère que tout à l'heure, Benjamin Lancard va nous rassurer sur le futur 2012, sachant que le candidat n'est pas encore annoncé, vu que nous ne sommes pas dimanche, mais mercredi. Donc voilà.
Ouais, moi j'avais plus une question par rapport aux législatives. Il va y avoir beaucoup de candidats, donc ça a été évoqué, ça veut dire aussi beaucoup de réponses. Et donc, par conséquent, ça veut dire que la plupart des gens auront, même avec beaucoup de bonne volonté, pas forcément le temps d'éplucher toutes les réponses. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été prévues pour avoir des vues un peu d'ensemble de tout ça, ou pour pouvoir retrouver les informations vraiment qu'on cherche?
Pour les législatives, ce n'est pas le questionnaire qui est envoyé, c'est un pacte. Donc, du coup, le candidat signe une déclaration comme quoi il s'engage à promouvoir. Donc, c'est quand même plus simple pour retrouver l'information. Puisque après, c'est divisé par circonscription.
Je n'avais pas bien compris.
Voilà. Donc, hormis pour les présidentielles, donc pour mémoire, toutes les autres élections, c'est un pacte comme quoi ils ont compris l'importance du logiciel libre et qu'ils s'engagent à promouvoir pendant leur mandat.
D'ailleurs, sur ce pacte, est-ce qu'on sait dans les législatives qui ne signe pas? Puisqu'on peut savoir qui n'a pas été informé, mais est-ce qu'on peut savoir qui ne veut pas signer?
Alors, sur la plateforme, il est possible effectivement de voir quels candidats ont été contactés et leurs réponses. Alors, des fois, il n'y a pas de réponse. Par contre, on sait effectivement certains qui ont refusé de signer. Alors, j'aurais plus le nom en tête, mais je crois qu'il avait des arguments valables en disant « je ne signe pas un papier, c'est dans mon travail quotidien que je montrerai mon attachement au libre ». Je ne sais plus qui c'était exactement. Donc, oui, on peut voir via la plateforme en fait, qui refuse de signer, mais ce qui est très rare, il y a ce cas-là, ou qui n'a pas encore répondu. Il y a un suivi qui permet effectivement de globalement, notamment, ça permet à un volontaire, par exemple, qui veut contacter un candidat, de savoir s'il a déjà été contacté ou pas. S'il a déjà été contacté, ça ne sert pas à grand-chose de le recontacter, même si ça renforce un petit peu. Mais bon.
Oui, aussi, une autre question. Donc tout à l'heure, vous avez dit que les gens avaient à avoir les informations, donc allaient pouvoir lire au moment des présidentielles, donc lire les réponses. Est-ce qu'il y aura une démarche proactive d'aller vers les gens pour leur donner les réponses, parce que les gens peuvent venir, on est d'accord, mais est-ce qu'il y aura une démarche d'aller plutôt vers les gens pour leur dire voici les réponses qu'ont les candidats, sans faire de prise de parti, mais une démarche proactive quand les réponses seront arrivées, que ce soit sur Internet ou ailleurs.
Ah, on va annoncer publiquement que quand les réponses nous arriveront. Ça, ça semble logique et c'est quelque chose qu'on fera, oui. C'est ça la question. On annoncera, on diffusera le fait qu'on a reçu des réponses.
Les réponses sont mises en ligne à fur et à mesure de réception. Prime au premier qui répond, parce que le questionnaire est assez long quand même. Ensuite, après, sur l'analyse, il est évident que les questions induisent une certaine position de l'April. Donc l'analyse est assez, je dirais pas facile, parce qu'il peut y avoir des divergences d'explications, etc. Mais l'analyse peut être relativement rapide. Mais en tout cas, dès qu'on reçoit, on met en ligne. Donc effectivement, quelqu'un qui répond, comme c'était le cas la dernière fois, deux jours avant, on se dit que c'était facile à lire, ça allait vite. En fait, il laisse peu de chance aux gens, effectivement, de pouvoir analyser sa réponse. Donc nous, on encourage les équipes à répondre le plus rapidement possible. On est à leur disposition pour, pas forcément les aider dans la réponse, mais leur donner les éléments de compréhension, parce que c'est vrai que c'est 5 pages de questions et c'est 100 pages d'analyse. Ah, bien, 100 pages d'analyse, ça peut paraître beaucoup, mais sachant quand même que pour certaines, c'est des sujets qui traînent depuis 5 ou 10 ans et qui étaient déjà dans le questionnaire précédent. Il faut savoir quand même que les représentants qui seront là tout à l'heure, j'ai vérifié, représentent tous des candidats qui ont répondu déjà en 2007, y compris au niveau de l'UMP. Bon, parce qu'on sait tous qui sera candidat, donc ils ont déjà répondu. Une partie des questions était déjà en 2007. Alors certes, ce n'est pas les mêmes candidats. Donc ils peuvent avoir des divergences en 5 ans, mais on peut espérer aussi qu'il y ait une certaine cohérence dans les partis et qu'en fait, entre 2007 et 2012, il y a certains points qui restent, positivement ou négativement d'ailleurs. Donc il y a des questions qui seront nouvelles, c'est sûr, sur la partie économique, innovation, recherche, mais le travail pour ceux qui ont déjà bossé il y a 5 ans, et pour en avoir croisé tout à l'heure dans la salle, je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé sur les réponses aux questionnaires il y a 5 ans, qui sont encore là dans les équipes de candidats, le travail est quand même facilité par rapport à il y a 5 ans, où c'était un vrai défi, parce que nous, quand on l'a lancé il y a 5 ans, on ne savait pas du tout si les candidats allaient répondre. Et je veux dire que le premier à répondre, on était content, et quand on a vu que 8 avaient répondu, dont les principaux, on était très content. Et quelque part, la réponse du candidat Sarkozy à l'époque, on nous satisfaisait, parce que comme il répondait clairement sur ses positions, on avait au moins un élément d'analyse.
Bonsoir. Deux petites questions. La première, est-ce que vous avez quelques petits conseils concrets sur le travail de démarchage, de lobbying pendant la partie législative sur le contact à établir avec le député de sa circonscription? Et deuxièmement, on est assez proche, là on touche à beaucoup de problématiques DNTIC et tout ça. Il y a la neutralité du net qui est pas loin derrière tout ça, qui est très complémentaire de ces problématiques-là. Est-ce que ça valait pas le coup de faire un truc un peu avec la quadrature, ou d'essayer de trouver de bosser avec eux, ou d'essayer de profiter qu'on rencontre un jour un député pour faire ça avec eux? C'est une idée comme ça.
Ok, donc sur le premier point, concrètement, moyen de contacter son député, le plus simple, c'est d'y aller en personne. La manière qui fonctionne le mieux, c'est d'aller... Alors les députés, avant l'élection, ils sont sur les marchés, ils sont présents physiquement aussi, dans leur permanence, ainsi de suite. Donc allez les voir, allez leur parler directement, c'est encore la manière qui fonctionne le mieux. Aussi le mail, le téléphone fonctionnent bien, mais globalement, le contact direct, il n'y a pas de secret, c'est vraiment la méthode la plus efficace. Donc il faut oser y aller, mais après, en général, on est souvent assez bien reçu, parce que c'est une période où, effectivement, ils sont plus à l'écoute, et souvent, c'est en plus des questions qui les intéressent, au final. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur, et souvent, ça fonctionne bien. Après, donc, sur la deuxième question, qui était... Neutralité du net, oui, et les autres questions. Il y a d'autres associations, comme elle a dit, qui s'en occupent. L'idée, ce n'est pas de couvrir l'ensemble des sujets du numérique, parce que ce serait quelque chose de beaucoup trop long. Okay. On est complémentaires. Ils vont pouvoir y travailler. Ils travaillent eux aussi. Et donc, du coup, éventuellement, on verra, on en discutera, mais on n'essaie pas de traiter leurs sujets.
Alors, je peux préciser que dans la méthode de travail, sur des sujets qui ne sont pas le cœur de l'activité de l'April, mais à côté, on travaille avec les structures dont c'est le cœur de l'activité. Donc, par exemple, tout à l'heure, je cherchais Jean-Pierre Archambault, qui est le président de l'EPI, Enseignement pour l'informatique. En 2007, la partie éducation était beaucoup travaillée avec eux, et notamment sur l'aspect l'enseignement. On avait travaillé aussi avec la FFI, sur les brevets. Donc cette année, évidemment, on va sans doute caser neutralité du net, open data quelque part, donc en collaboration avec nos amis de Regards Citoyens qui sont là-bas, la Quadrature. Par contre, il n'est pas question pour nous de traiter en profondeur ces sujets-là, parce qu'on ne peut pas tout faire. On pourrait aussi parler de vote électronique, vu qu'il y a plein de gens qui disent que la solution de vote électronique, c'est le logiciel libre, alors qu'on n'est pas du tout d'accord. Mais il y a une structure qui s'appelle, voteélectronique.org ou quelque chose, ou ordinateur de vote, dont c'est a priori la thématique. Donc on essaye vraiment quand même d'en mettre une petite dose, mais en laissant aussi aux autres l'occasion de faire leur travail, parce que c'est quand même compliqué de faire ce genre de rédaction. Donc je ne sais pas si la Quadrature fera un questionnaire spécifique, je ne sais pas si Regards Citoyens le fera, mais en tout cas, voilà, on va saupoudrer de ça, et nous, on travaille avec les structures effectivement qui sont spécialisées. Et donc sur la partie éducation, cette année, on met à jour le questionnaire, notamment avec EPI, qui est quand même très en pointe sur ce sujet. Non pas pour faire durer le plaisir, parce que bon, on va quand même faire une pause un peu plus longue, ce qui permettra d'aller chercher à manger. Mais d'un point de vue... Ah bah oui, parce qu'il faut qu'on finisse à 22h quand même, hein, donc il faut tenir. Qui a participé à la campagne candidat.fr, à une campagne candidat.fr précédente, en termes de pacte du logiciel libre? Tu peux lever la main, Benji. Donc il y a Vincent qui est là-bas, il y a Benji. Alors, c'est l'occasion quand même de saluer le jeune homme qui est là, hein, qui s'appelle Benjamin Drieux, parce que c'est le principal, enfin même, on va dire, l'unique développeur de notre plateforme candidat.fr. Donc la plateforme qui facilite quand même le travail, et ça c'est un bénévole, et franchement sans lui la campagne non plus n'existerait pas. Donc vous êtes deux à avoir participé. Seconde question, qui connaît ici le nom de son député? Voilà, c'est assez classique, beaucoup de gens ne connaissent pas le nom de leur député, donc là il y en a la moitié. C'est l'occasion d'aller voir son député. Et effectivement, comme le disait tout à l'heure Jeanne, le contact physique, c'est quand même le plus simple. Moi, lors des dernières élections, par exemple, à chaque fois que j'allais déposer mes enfants à l'école, ils étaient tous là, avec leur tract. C'est l'occasion de leur parler un petit peu, de leur dire « Est-ce que vous connaissez le logiciel libre ?» de commencer à entamer un contact. Et souvent, peut-être vous allez tomber sur des députés que ça n'intéresse pas, ce sujet-là, parce que comme vous le savez, à l'Assemblée nationale, les députés travaillent vraiment sur des dossiers spécialisés. Par contre, des fois, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui va être intéressé parce que ça va lui parler. Récemment, on a eu l'expérience de quelqu'un, dans le cadre de la projet de loi consommation dont parlait Marie. On avait encouragé les membres à contacter des députés par courriel ou par téléphone. Et il y a une adhérente qui a contacté sa députée dans les Côtes-d'Armor, je crois, pour l'informer de la problématique de la vente liée. Cette députée lui a répondu. Et en fait, elle a fait une question parlementaire après. Je crois que la réponse n'a pas encore été publiée. Mais voilà, elle ne pensait pas que ça pouvait avoir un impact. Et puis, tout d'un coup, sa députée lui répond, elle fait une question parlementaire. Évidemment, on a fourni d'argumentaires, en tout cas publics, hein, en disant, voilà, tu vas sur le site, tout l'argumentaire est là. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à y aller. Ça marche, ça donne un côté humain. C'est un peu la démarche d'adopter votre député, c'est de devenir, quelque part, son référent. Parce que le député, il a des référents lobby, hein, réguliers, qu'il rencontre. Mais il est aussi sensible aux référents citoyens. Parce que ce n'est pas les lobbies qui élisent les députés. C'est quand même les citoyens. Donc j'espère qu'à la fin de la campagne, si vous revenez au bilan, quand je poserai la question, est-ce que vous avez contacté au moins un candidat, vous leverez tous la main. Et rassurez-vous, c'est vraiment très très simple et c'est très efficace. Parce qu'on constate, nous, dans les prises de contact après avec les députés, alors on n'a pas fait un bilan chiffré précis, mais je pense qu'on va quand même le faire à un moment ou à un autre, c'est que les députés qui sont intervenus sur ces 5 ans dans les projets de loi pour défendre quelque part le logiciel libre ou évoquer ce problème-là, la quasi-totalité était signataire du pacte. Et le fait qu'ils aient signé un pacte qui est quelque part très peu engageant, mais quand même, c'est quand même une signature qui est faite à la main, qui est envoyée par fax, et bien pour nous, ça facilitait les contacts. Donc c'est vraiment important. Alors après, bon, c'est très bien que les pouvoirs en place font que des fois, il y a des lois qui passent. Mais en tout cas, voilà, ça a un impact. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Et puis même si vous contactez des candidats qui ne seront pas élus, sachez qu'ils seront peut-être candidats après sur la municipale, la cantonale ou autre élection.
Donc n'hésitez pas à imprimer le pacte, à aller les voir dès que les élections ont commencé. Alors certains partis ont commencé déjà à sensibiliser leurs propres candidats. Donc la plateforme sera en ligne bientôt, Benji, c'est ça? Oui, d'accord. Donc Benji va la mettre en ligne ce soir, sans doute. Voilà, mais c'est simplement vous dire, voilà, je vous encourage à le faire parce que c'est quelque chose qui est vraiment utile. Et croyez-moi, ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs d'expertise, et notamment de gens qui leur disent, voilà, pourquoi moi j'ai un problème avec l'aventier? Pourquoi moi j'ai un problème avec la neutralité du net? Ou qu'est-ce que c'est que la neutralité du net? Leur expliquer concrètement pourquoi vous, en tant qu'électeur de leur circonscription, vous avez un problème avec tel ou tel sujet. Ou au contraire, vous voudriez, par exemple, que dans l'école de vos gamins, il y ait du logiciel libre. Ou que dans l'administration publique de votre mairie, il y ait du logiciel libre. Donc, je vous encourage vraiment à aller les voir. Alors, donc, on va pouvoir faire une pause. Donc, la partie débat va reprendre à 20h15. Donc, la partie débat, vous aurez donc des représentants donc, de différents candidats qui tous, donc je vous le dis... dans l'élection précédente, avait répondu au questionnaire. Donc le Front de Gauche, donc à l'époque c'était le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, le PS, l'UMP, Nicolas Dupont-Aignan, qui n'avait pas les signatures à l'époque, mais qui avait répondu au questionnaire en temps et en heure. Et j'en oublie un, non? Hein? Alors, oui, mais là, il n'y a pas de représentant de Bayrou. On était en contact, mais pour l'instant, ils ont envoyé en tout cas personne. En tout cas, tous ceux qui seront là, voilà, c'était représentent des partis ou des candidats qui ont répondu au questionnaire en 2007, qui vont donc sans doute répondre effectivement au questionnaire en 2012. Donc ça va être l'occasion, voilà, de discuter sur 5 thématiques principales, vraiment plutôt de leur vision et de leur position, pas forcément de rentrer dans le détail du questionnaire parce que c'est pas l'objet, mais d'avoir une idée un petit peu de leur position sur vraiment le logiciel libre, donc de 20h15 à peu près jusqu'à 22h, heure de fermeture de la cantine. Donc je vous invite à revenir ici vers 20h, le temps de s'installer. Oui, question ?
Par curiosité... Le Front National avait été contacté ou pas?
Alors, nous sommes des gens républicains, nous contactons tout le monde. Les gens qui ne nous répondent pas, ils répondent pas. Donc, nous, l'organisation en fait, de la soirée et même de candidat.fr, moi, je crois que c'est fin novembre ou mi-novembre, j'ai envoyé des courriels à tous ceux que je pouvais connaître dans les équipes de campagne ou potentiellement, en disant, voilà, on va relancer candidat.fr, on souhaite vous voir pour vous présenter la campagne, le nouveau questionnaire, etc. Certains ont répondu. Et d'autres n'ont pas répondu. Donc on a rencontré des gens qui ne sont pas forcément là ce soir. Donc nous, on a contacté tout le monde. Après, on nous répond ou on ne nous répond pas. Quoi. C'est évident. Quoi. Donc là, notamment, par exemple, sur Bayrou, j'étais en contact avec l'équipe de campagne qui devait envoyer quelqu'un. Donc il n'y a pas eu de retour. On fera peut-être une nouvelle session plus tard quand le questionnaire sera avancé ou que les réponses seront arrivées. Voilà. Nous, on contacte tout le monde. Et en 2007, Jean-Marie Le Pen, notamment, avait répondu au questionnaire. Il faisait partie de ceux qui avaient répondu. Donc je vous invite ici donc vers 20h, le temps de s'installer, pour un démarrage de la partie débat à 20h15.